Et le jour où on arrive au divorce, car tout ça marche ensemble, le jour où on arrive au divorce, l'enfant, on lui dit, les deux adultes qui t'aimaient vont continuer à t'aimer, mais chacun dans leur maison, parce qu'ils ne font que se disputer. Et l'enfant est troublé, il dit, mais alors vous allez me laisser? Mais non, on ne va pas te laisser, tu vas venir vivre avec l'un ou avec l'autre, et tu verras papa tous les 15 jours, tu verras maman tous les 15 jours, on t'aime tous les deux, tu sais. Et l'enfant ne peut croire ça que s'il aime également le père et la mère. Sinon, il se met tout de suite du côté de la mère. Et si on lui dit avec qui tu veux aller, il répond avec maman. Bien sûr, si maman a eu, je ne sais pas moi, 14 heures par jour avec l'enfant et le père n'en a eu que deux, il y a un déséquilibre énorme. C'est pourquoi moi je souhaite que les parents aient un congé de 1 an, un congé mi-temps pour monsieur et pour madame, pour qu'ils puissent intervenir à tour de rôle auprès de l'enfant et pour que personne ne perde son job sur le plan social. Car si nous avons fait des crèches, si ce n'était pas pour le bonheur de nos enfants, ils n'y sont pas très heureux à 3 mois, surtout ils y seraient mieux à 1 an simplement. C'était pour libérer les travailleuses que nous étions. Et les autres pays nous envient cette chance. Les Allemands disent, qu'est-ce que vous avez de la chance? C'est pour ça que vous faites des enfants en France, parce qu'on vous soulage, on vous aide, hein. Vous avez tout de suite des crèches, au bout de 3 mois, vous êtes débarrassé, vous repartez à votre boulot. Mais nous, on n'a absolument pas ça. Les crèches sont rares, extraordinairement chères. Alors, faire un enfant, hein, on fait un, mais on ne fait pas toujours deux. Hein. Et c'est vrai que nous sommes gagnants au point de vue natalité, parce que les femmes ont été très aidées. Mais les enfants sont moyennement aidés avec ces histoires de crèches qu'il faudrait réviser. Moi, je crois qu'on les met en crèche beaucoup trop tôt. Et je crois que la rupture de 3 mois est très, très dure à faire pour un enfant, de vivre pratiquement 10 heures... sans voir et sans sentir l'odeur des parents, que ça soit lui ou que ça soit elle. Alors cet enfant doit passer la matinée, il doit déjeuner, il fait l'assiette, il se réveille, on lui donne le biberon, ça va bien, et à partir de là, il se met à hurler. Et il hurle à mort, car il hurle après un manque qui n'a pas de nom, pas de forme, pas d'image. À 3 mois, on a des manques, c'est-à-dire c'est pas comme d'habitude, mais on ne sait pas ce qui manque. C'est pourquoi si on les mettait simplement à 9 mois en crèche, ça serait plus facile. L'enfant saurait que papa est parti et papa va revenir. Et la puéricultrice le dirait. Elle dirait, mais papa, il n'est pas là. Tu pleures pas. Papa, il va revenir. Et l'enfant entendrait papa. Il saurait qui c'est papa. Et il saurait qui c'est maman. Pour l'instant, ça n'est pas toujours comme ça. On dit à 3 mois, un enfant, maman va revenir. Pendant le premier mois, ça reste extrêmement dur. Et si Nathalie part dans la rue en pleurant, on comprend très bien pourquoi elle pleure. Elle a fait un enfant, et elle est en train d'abandonner à d'autres femmes. Ça lui paraît scandaleux. Elle dit, pourtant, je ne peux pas faire autrement. C'est la loi. Bon. Alors, moi, je conseille aux mères, quand je les vois, mais écoutez, essayez de vous faire prolonger un peu. Ça ne peut être que bon que vous traîniez un peu à la maison avec cet enfant qui apprend à vous connaître et qui apprendra à vous... à faire le deuil de vous. Quand vous partez et que votre enfant pleure, c'est pas négatif, c'est extrêmement positif. Ça veut dire, je te connais, tu t'en vas, je suis chagrin, je pleure, je veux pas que tu t'en vas. Je veux vivre avec toi. Ça veut dire donc qu'il vous connaît très très bien. S'il ne pleure pas, moi j'ai toujours dit que si je volais un enfant, je m'approcherais d'un berceau d'un enfant de 3-4 mois. Je le vole, pas de bruit, pas d'histoire. Il s'en fout complètement. Il va avec tout le monde, il ne reconnaît pas très bien les gens, je dis 4 mots très gentils, je le prends dans ma cape, je m'en vais, j'ai voulu un enfant. Ça peut très bien se faire. Si je veux le faire à 9 mois, ça va être déjà très différent. Il va se mettre à hurler parce que je ne suis pas maman, et il connaît maman. Hein. Je vais avoir beaucoup plus de difficultés. Et dans la soirée, n'en parlons pas. Donc les enfants de 9 mois, ce sont des enfants identifiés dans leur famille avec leurs parents. Et ils sont déjà... très fixé à la famille. C'est pourquoi le divorce demande certaines lois que je ne développerai pas ici pour respecter l'individualité de cet enfant qu'on a travaillé à former pour son bien et sa sécurité et qu'on déchire bruyamment par un divorce si on divorce avant que l'enfant n'ait à peu près 2 ans. C'est-à-dire qu'il n'est passé le temps de l'attachement, c'est la première année. Vous faites tout pour vous attacher, vous faites tout pour qu'il n'ait pas de manque, vous lui donnez une tétine, vous lui donnez des doudous, vous lui mettez des coussins autour du berceau pour qu'il mette la tête comme dans l'utérus où il s'appuyait sur la membrane de la mère. Vous faites tout pour que le monde n'ait pas changé, bien que son monde a totalement changé. Et la deuxième année, tout d'un coup, vous devenez un parent qui interdit. Votre enfant veut prendre la lampe, vous dites non. Et vous verrez que le premier non, et vous le savez d'ailleurs, le premier non est extrêmement surprenant. L'enfant vous regarde, il dit, qu'est-ce qui se passe? Elle n'a jamais fait ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il remet la main pour voir. Et vous refaites exactement la même chose. L'enfant ne comprend pas. Il ne comprend pas que c'est interdicteur. Et la troisième fois, s'il prend le truc et le fait tomber, alors là, vous levez la voix. Mais depuis, au bout de 2-3 mois, vous ne faites pas que lever la voix parce que votre enfant a compris que ça n'avait aucune incidence sur lui et qu'on continuera à prendre la lampe, elle va tomber, elle va casser. Alors s'il est comme ça, si c'est un enfant qui n'écoute pas les 3 sommations du parent, il va bien falloir qu'à la 3e sommation, vous dites, moi si tu continues, moi je te donne une tape. Et vous lui donnez une tape si vous avez promis de la donner. Et l'enfant n'est ni vexé, ni humilié, il a respecté le contrat. Vous lui avez dit au bout de 3, moi je te donne une tape. Mais tu fais comme tu veux, tu choisis. Et l'enfant choisit de faire sa bêtise. Il a le plaisir de faire la bêtise. Et après, il a le plaisir d'avoir une tape. Mais sachez qu'un enfant qui est prévenu n'a pas très mal. Car quand vous avez dit, je vais donner une tape, il s'est raidi sur le plan nerveux, prêt à subir l'assaut. Donc il a beaucoup moins mal. Donc c'est très important de corriger nos enfants, mais de les prévenir. Car symboliquement, ils ont reçu une punition, mais dans le corps, ils n'ont pas été sadisés, ça n'a pas été gigantesque comme souffrance. Surtout quand on tape sur des couches, cette fameuse fessée qui tombe sur des couches, moi elle me fait rire, parce qu'elle fait beaucoup de bruit et pas beaucoup de mal. Mais elle signale qu'il se passe quelque chose d'important, parce que ça fait beaucoup de bruit, les claques sur un plastique, ça paye ça.